placer notamment la personne âgée au cœur de la communauté.
Alors, qu'est-ce que tu dis au futur? Demain, tu pourras.
Et puis petit à petit, par le jeu des hasards, eh bien, on s'est retrouvé à monter des projets intergénérationnels.
C'est bien ce moment, vous partagez avec les personnes âgées, vous parlez ensemble, vous communiquez, vous avez un truc en commun, donc c'est ça qui est vraiment bien.
Dans ce qui accompagne le bien vieillir, c'est drôlement important de sentir appartenir à un groupe, de continuer de sentir que tu appartiens à une communauté.
Je sais pas si les autres ils ont mis autant que nous, quand même on a mis beaucoup.
Tu crois? Va voir. Hein.
Et ce que des études montrent très bien, c'est que de rester actif toute ta vie durant, ben c'est clair que c'est tout bénéfice. Continuer de te donner des défis au quotidien, puis rester une apprenante chaque jour de ta vie. De ne pas s'enfermer dans des routines.
Le mot habitude, j'aime pas. C'est vieillir, c'est continuer de vivre, et puis c'est pas avoir d'habitude. Ça, c'est très mauvais.
Passer de la sédentarité à un peu d'activité physique pour des aînés, c'est un retard de 4 ans du risque d'entrer en dépendance ou une capacité à ressortir même de la dépendance pour des gens qui y sont déjà entrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous parle beaucoup dans cette vision d'accompagner le bien vieillir.
Relâchez, joignez.
On se sent pas un petit vieux qui n'arrive plus à avancer.
Je me sens très bien, non, vraiment.
C'est ça, mais c'est ça la vie. C'est de se rencontrer, c'est de partager, c'est cette convivialité. C'est l'essence de notre humanité quand même.
Il y a forcément dans votre quartier, dans votre rue, dans votre ville, dans votre bourg, 1, 2, 3, 10 associations. Alors, celui qui se trouve isolé, c'est parce que, justement, je crois qu'il n'a pas d'exemple à suivre.
Je me dis que si on ne fait pas maintenant, mais il sera trop tard après, donc il faut tout essayer. On découvre des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Donc on se dit, bah, tiens, je suis encore capable malgré mon grand âge.
C'est pas la fin de rester jeune, rester beau, rester grand, j'en suis. Non, mais c'est sortir des sentiers battus un petit peu.
Les personnes à qui on en parle, c'est bien, elles ont un grand sourire, mais on se demande ce qu'elles pensent. Il faut qu'ils viennent nous voir pour voir ce qu'on fait.
J'ai eu un cancer, j'ai été opéré, et donc on m'a retiré carrément le rein droit, j'ai été opéré d'une oreille, de là, on m'a retiré carrément la thyroïde, hein, on m'a ouvert carrément là. Bon. Et bon, j'ai eu un deuxième cancer il y a un an et demi, hein, le deuxième rein qui a lâché, et alors là maintenant je suis sous dialyse maintenant, le mardi, le jeudi et le samedi. Je trouve que je me suis amélioré, que même encore maintenant, je ne suis pas encore en perte.
Bon, 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 bon. Et certaines règles, il faut, quand on vieillit, respecter un petit peu plus. Il faut faire un peu plus attention à soi. Faire attention de se mettre en danger raisonnablement. Il est 14h, vous êtes sur la promenade des Anglais et vous avez un monsieur qui a 75 ans qui court torse nu. On est au mois d'août. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Mais il n'est pas le seul de cet âge-là. C'est ça le problème.
Attention, quand il rentre à la retraite, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup, ils n'ont jamais rien fait de leur vie, ils veulent faire des exploits. Alors ça, c'est très mauvais, ça. Faut y aller gratuitement. Moi, je leur conseille d'aller voir un médecin sportif qui voit l'état de votre cœur, n'est-ce pas, avant de commencer à faire des efforts.
Eh bien, j'aimerais vous dire que ça a duré une heure et demie. Il m'a pesé, mesuré, regardé la force des mains. Il s'est rendu compte que j'avais eu des otites étant plus jeune. Il a eu vraiment un bilan complet.
Centre régional de prévention, bonjour.
Les centres de prévention sont au nombre de 17 en France. C'est un lieu où sont rassemblés un certain nombre de professionnels de santé pour pouvoir proposer des conseils de prévention primaire. L'idée, c'est d'accompagner le vieillissement dans les meilleures conditions possibles.
Ça va, Pierre ?
Ouais,
on fait aller. Sans sa canne, effectivement.
L'important, c'est que les gens s'emparent des outils et que ces outils ou ces clés, puisque globalement, les centres de prévention, c'est des clés pour bien vieillir, c'est qu'eux s'emparent des clés pour pouvoir effectivement avoir cette qualité de vie qui va permettre de donner envie de continuer les choses qu'on aimait, faire celles qu'on aimait et qu'on n'a pas eu le temps de faire, et éventuellement découvrir des choses qu'on ne savait pas qu'on allait aimer et qu'on va prendre plaisir à faire.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8.
L'idée, c'est de venir avant d'être malade ou avant de se sentir trop vieux ou avant d'être trop rouillé.
Comme le conjoint avait la possibilité de venir avec, je suis venu. Le médecin m'a conseillé de faire cet atelier.
Si c'est trop dur, au lieu de remonter sur les pointes, vous restez les pieds à plat. Hein ?
Je ne dis pas que je le fais tous les jours. C'est pas vrai, ce serait mentir, il faut être honnête. Mais disons que de temps en temps, tiens, Alexandra a dû se faire comme ça, je fais. Regardez comme ici, on va reprendre le métro. Arrivé chez moi là-bas, je peux prendre le bus, non, je vais rentrer à pied. J'ai un quart d'heure de marche à faire.
Pom, 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 pom.
Il y a des personnes très tristes. Quand on est arrivé, on se regardait tous comme ça. Et puis tout le monde parle maintenant, on est contents. On fait une bonne équipe.
C'est des gens qui ne se connaissaient pas il y a deux mois. Et aujourd'hui, ils ont créé des liens. Là, ils repartent ensemble. Moi, voilà, ça me fait super plaisir de les voir comme ça. Mon travail, c'est de rendre les gens heureux, déjà.
Ils partent.
Ils roulent pas.
Ils partent pour mon ballon.
L'important, c'est de se retrouver, se faire plaisir.
Il faut le faire refroidir.
Passé un certain âge, ils n'ont plus trop envie de cuisiner, donc ils simplifient beaucoup les repas.
Donc, il faut trouver le beurre.
Ils partent aussi du principe que comme ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus besoin de manger autant. Et au fur et à mesure, cette tendance s'accélère et le risque, c'est une dénutrition.
On fait infuser des gousses de cardamome et la cannelle.
Oui. Plus tôt on prend les bonnes habitudes, plus elles perdureront après. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention, en fait. J'espère que ce sera aussi bon que c'est beau. C'est vrai ?
On va les accompagner par la main à un moment. Après, on va lâcher la main, mais on va être à côté. OK ? Et puis après, ils finissent le chemin tout seuls.
On a en France plusieurs expressions détestables pour désigner ceux qui vieillissent. Tantôt, on les nomme les retraités. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce participe passé ? Alors qu'ils sont des participes présents, des participants présents à la société française. Donc les retraités, puis pire encore, les inactifs. Ben voyons. Mais vous avez vu l'agenda des retraités ? C'est quelque chose, ils n'arrêtent pas.
Donc je ne vois pas le temps passer. Au contraire, je trouve que c'est trop court, c'est plus court qu'avant.
La vie associative, la vie politique pour une part, la vie culturelle, c'est notamment les vieux qui la portent. Alors, franchement, tout sauf un repli, tout sauf un retrait, tout sauf un recroquevillement, tout sauf une mort anticipée. Mais au contraire, une nouvelle manière d'être.
Pom, 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 pom.
Personnellement, j'ai préparé ma retraite. Je n'ai pas attendu d'arriver à la retraite et de ne pas savoir quoi faire. Avec une caisse de retraite, j'ai pu participer à deux ou trois informations pour ne pas être surpris et surtout ne pas se laisser aller.
La retraite, moi, je l'envisage un peu comme une deuxième vie.
Un grand voyage dans un pays lointain tous les ans.
Mieux connaître Lyon et faire des promenades dans Lyon.
Peinture, dessin.
La maison au bord de la mer, le chien, les grandes balades.
Apprendre une langue.
Écrire.
Prendre des cours.
Je vais prendre du temps pour moi.
Prendre soin de moi, alors ça, c'est le mot d'ordre de la retraite. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai pas dit à ma maman que j'allais partir à la retraite. Je sais pas si je vais lui dire un jour. 80 ans, mais t'as toujours pas pris ta retraite. Ouais, c'est bizarre quand même. Voilà, donc c'est des gens qui ont pressenti que, voilà, on risque quand même de beaucoup les accaparer et qui ne savent pas bien comment s'y prendre pour ne pas accepter des choses qui ne leur conviennent pas, quoi. Par peur de se voir attraper par les enfants, qu'on peur que vous ne soyez pas occupé, que vous vous ennuyez, que vous déprimiez. Ils le font pour vous, quoi. Soyez un peu indulgents. T'inquiète pas, on va arrêter le contrat avec la nounou. Voilà.
Pom, 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 pom.
Là, ça s'appelle un stage de préparation à la retraite.
On a eu beaucoup de sujets d'aborder.
Alors, pendant 3 jours, c'est un moment où on peut se poser pour réfléchir à sa retraite.
Ce qu'il faut essayer de développer.
Réfléchir aussi à ce qu'on laisse au niveau du travail. Relativiser les choses.
Faire un peu le tri dans tout ce qui un peu nous handicape. Et puis tout ce qu'on pourrait envisager de nouveau.
Ce n'est pas un espace de parole qu'on a forcément dans la famille, qu'on n'aura peut-être pas forcément avec les amis, parce que du coup on est un peu en porte-à-faux, alors que ici c'est neutre, il n'y a pas de jugement, c'est de la prévention.
Je repars assez gaie, je dois dire, ouais. Confiante, assez optimiste.
Vous savez pas, on a rêvé qu'on allait faire le salon de la libido des seniors. Vous voyez pas que c'est un beau programme, ça ? Car c'est vrai que c'est le genre de choses aussi qu'on ne peut pas aborder facilement. Mais à mon avis, c'est quelque chose dont il faut aussi parler.
La question du sexe, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop vieux maintenant. Je ne pense plus à ça.
C'est pas une histoire d'âge. Ah non, c'est pas une histoire d'âge.
Mais vous savez, en général, ceux qui disent que c'est plus de mon âge, c'était déjà plus de leur âge quand elles avaient 20 ans. Hein.
L'amour, le travail, la connaissance sont les sources de la vie. Quand effectivement, hop, la retraite, donc on n'a plus de travail, il y a quand même l'amour et la connaissance. Donc allons-y, augmentons tout ça. Et vous savez, l'amour, c'est ce qu'on y met dedans. Hein. Si on n'y met rien, ben, il n'y a rien.
Je dis aux vieilles qu'il faut continuer à faire ce qu'on... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais qu'il faut continuer parce que la sexualité et le plaisir nous gardent pleines d'énergie, pleines d'invention, pleines de créativité, et que la sexualité est encore une source de bien-être et qu'il faut en profiter jusqu'au bout.
La Direction Générale de la Santé a décrété en 2006 que le plaisir sexuel est une composante du bien-être. Heureusement.
On n'est plus dans la beauté, on n'est plus dans les exploits, on n'est plus dans la concurrence.
Et alors là, et c'est là que c'est intéressant, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Ben, qu'est-ce qui reste ? Il reste la sensualité. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec les psychologues ou les psys qui, évidemment, veulent cultiver le jardin secret. Je pense qu'avec la vie qui avance, il faut juste ouvrir son jardin secret un petit peu. Il faut donner... petit truc à l'autre, pour lui dire « Tiens, si tu fais ça, ça me ferait plaisir. Tiens, tu donnes des pistes, puis comme ça, après, toc, 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 toc. » J'ai un couple qui a réussi à ce que le monsieur dise à la dame qu'en fait, il a toujours rêvé, parce qu'ils font beaucoup de vélo, et il a toujours rêvé qu'il s'arrête et qu'il la retourne dans une botte de paille. Quoi. Il l'a jamais fait. Et il part d'un éclat de rire. C'est rire de soi-même. On joue, on est dans le jeu. La vie, il faut se construire des souvenirs. Si on se construit tous les jours des souvenirs à deux, et ben, quand c'est compliqué, et ben, y a pas de problème. L'autre, il peut flancher. On les a, les souvenirs. Donc, on va s'aider, on va se rappeler les souvenirs, on va se rappeler les bons moments, on va se rappeler... Et puis, donc, on va dire que tout est possible.
Vous souvenez, Ronsard, le temps s'en va, madame, le temps s'en va. Las, le temps, non, mais nous, nous en allons. Aimez-moi cependant qu'elle est belle. Et Ronsard, il s'adresse à ce moment-là à celle qu'il aime en lui disant parce que je vais mourir, parce que le temps s'en va, etc. Parce que je vais mourir, aimons-nous. Ah, formidable, voilà. Donc il lui dit pas j'ai un projet de vie, hein, mais il lui dit aimons-nous tout simplement.
Pom 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 pom.
J'ai des copines, hein. Qui sont aussi vieilles que moi, alors on se marre parce qu'on se raconte des histoires de non-pieds quand même, hein, pour être honnête.
Non.
Ah oui. Non, mais dites donc, les bonhommes, vous n'êtes pas toujours rassurants. Hein. Enfin bon. On rigole. Moi, j'ai une amie, ça fait 30 ans qu'elle était divorcée. On en rigole encore, on en rigole. Enfin bon.
quand on a vécu 40 ans chacun de son côté, qu'on se retrouve en couple, dans la maison, bien souvent ça passe mal. C'est pour ça qu'il y a tant de séparations quand on arrive à la retraite aujourd'hui.
Pom, 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 pom.
Quand on vit en couple et quand il y en a qui part en retraite, je pense qu'il y a vraiment un recalage à faire, quoi. Dans l'organisation et dans la façon de vivre, le mode de vie même. Donc ma femme est très déçue parce qu'elle mange moins bien qu'avant, forcément, parce que c'est moi qui fais la cuisine. Il a fallu que je lui explique qu'on ne s'improvisait pas cuisinier du jour au lendemain.
Dites à ces messieurs de quoi ils doivent se méfier.
Eh bien, ils doivent se méfier, juste surtout de la vitesse de cuisson. Elle ne doit pas aller trop vite.
Je ne me rappelle jamais comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, dans la soupe, enfin bref. Donc ça peut créer des petites tensions, forcément. C'est pas toujours facile à gérer, mais bon, ça se gère. Hein. Avec le temps, je ferai des petites recettes un peu plus compliquées.
Pom, 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 pom.
On va très bien, Madame la Marquise, mais pratiquement tout le monde prend au moins un ou deux ou trois médicaments par jour.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà de quatre médicaments, on ne sait plus trop ce qu'on fait.
Souvent, vous avez des seniors qui prennent des médicaments. Il faut qu'ils sachent qu'un médicament peut intervenir dans leur conduite.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro. Si vous n'avez pas une voiture, bon, ben, vous ne pouvez pas toujours demander aux voisins ni aux enfants.
L'automobile, c'est un instrument de liberté, un instrument de vie. Il faut la maîtriser. Il faut qu'elle soit à votre service et non pas à votre contrainte, quoi. La mobilité, c'est être libre. En tant qu'individu et citoyen de la route, cette voiture apporte à la plupart des gens, surtout ceux qui ne sont pas dans les villes avec l'offre des transports en commun, une liberté et un sentiment de vie et d'activité sans contrainte incroyable.
Ah, vous nous emmenez dans le château.
Pom, 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 pom.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les seniors à s'améliorer ou compenser les carences que l'âge vous amène? Il y a des quantités de paramètres que l'on peut améliorer, encore faut-il les détecter.
Vous n'aimez pas les messieurs dames qui traversent sur les passages piétons?
Moi, je ne les ai pas vus.
Les seniors, il faut les amener à faire en sorte qu'ils arrivent à maîtriser un certain nombre de situations nouvelles. Les ronds-points, les tournes à gauche. Ces seniors, ces conducteurs qui ont 30, 40, 50 ans de permis, plutôt que de rester figés devant des panneaux, etc., on a préféré donc faire des audits de conduite pour tester vraiment leur aptitude à la conduite et surtout pour les rassurer.
C'est super parce qu'elle met le doigt dessus. Et du fait qu'on a eu le doigt dessus, maintenant, quand je vais conduire, je vais y penser.
Tout était manuel, les portières, les glaces, les machins, tout ça. Non, là, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Il y a trop de, je vais vous dire, il y a trop de trucs. Il y a plein de boutons.
Aujourd'hui, est-ce que les pilotes de course de F1, par exemple, s'entraînent sur un circuit dans la voiture? Simulateur. Pourquoi nos seniors et nos jeunes n'auraient-ils pas droit à un simulateur pour s'entraîner au volant d'une voiture? Et arrêtons de leur dire, t'as 70 ans, on conduit plus.
Pom, 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 pom.
Alors lequel qui vous convient, 30 euros, pour vous c'est gratuit madame, c'est le jeune homme qui vous l'offre. Le tout c'est de choisir. Hein. Bonne promenade, à bientôt. Hein. Je suis là tous les jours. Hein. Bah oui, je suis obligé de travailler.
Oui, je vois du positif moi. Même si parfois ça mon ralentissement m'agace, mais bon. J'allais trop vite avant alors, c'est mieux d'aller moins vite. Je ne supportais pas que quelqu'un me double. Mais maintenant, je me dis, mais non, je vais avoir 70 ans, alors quand même pas exagéré. Il faut quand même que je comprenne. Puis j'aide les autres, je fais du bénévolat. Je vois des gens pires que moi. Hein. Les gens, ils sont aveugles. Je me dis, qu'est-ce que j'ai de la chance? Moi, je vois clair. Alors, bon, ils vont plus vite que moi à marcher parfois. Mais ils voient pas. Donc, à tout prendre.
C'est pas que ça peut être, ça doit être. Un moment où on réalise ce qu'on n'a pas pu faire. Moi, je rêve d'une chose. Un saxophone. Je voudrais apprendre à jouer du saxophone.
Pom, 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 pom.
Voilà.
De rien.
La vieillesse est un bel âge, et c'est l'âge de toutes les libertés.
Pom, 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 pom.
La vieillesse, c'est l'âge de toutes les libertés. Est-ce que vous le pensez aussi ? On va peut-être redonner un petit peu de lumière, Virginie, s'il te plaît. Comment avez-vous trouvé ce petit reportage ? Est-ce que cela vous a interpellé ? À quel niveau ? Est-ce que vous avez apprécié ce chercheur en retraite et en vieillissement qui a dit combien c'était important d'oser faire des choses qu'on n'a jamais faites et qu'on a envie de faire ? Comment avez-vous trouvé ce petit reportage ? Oui. Il vous a laissé complètement sans voix. D'accord.
Disons que vieillir, ça dépend dans quelles conditions. Ça dépend si vous êtes seul, si vous êtes en couple. Il y a déjà des barrières. Ensuite, disons que c'est comment on appréhende sa retraite. Si on la prépare, c'est beaucoup plus facile.
Oui.
Donc, moi, j'ai eu la chance de faire du mi-temps avant d'arrêter. Donc, j'étais à 50%. Donc, ce qui m'a permis de bien préparer.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est un argument important. Préparer. Oui. Voilà. Anticiper.
Tout à fait. Comme, par exemple, dans l'habitat, bon, on peut avoir une maison et après, il faut peut-être anticiper d'avoir moins grand. C'est des choses à voir dans l'avenir.
Tout à fait. C'est très important d'anticiper dans la maison et vous avez raison de nous donner déjà ce premier témoignage parce que c'est pas la douche à l'italienne ou les tapis, c'est pas quand on a fait la chute qu'il faut les poser. C'est essayer d'envisager et d'anticiper sur le risque pour pouvoir avoir un appartement ou une maison qui s'adapte à nos difficultés. Faut pas attendre l'accident ou la chute. Tout à fait. Madame, je crois que vous aviez levé la main. Fabienne va vous donner le micro.
Pour répondre à votre question, j'ai trouvé ce petit film très joyeux. Et je remarque que les femmes sont plus joyeuses encore que les hommes, j'ai l'impression. Hein, parce qu'on aime bien rire. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'anticipation. Et je crois que plus on a eu un emploi ou un travail ou une profession intéressante, plus il faut préparer. Parce que plus le vide peut être grand quand on s'arrête. Et donc, effectivement, je suis tout à fait de l'avis de madame derrière moi, à savoir anticiper cette période qui peut être pleine de vide. Et donc, savoir déjà ce qu'on aime, quels sont les activités qu'on a tellement eu envie de faire, mais que parce qu'on avait une famille ou parce que on devait s'occuper d'un conjoint ou parce que, etc., il y a plein de parce que on n'a pas eu le temps de les faire. Donc il faut déjà rassembler ses esprits, oserais-je dire, sur ce qu'on aurait aimé faire. Et ensuite, on peut se rendre compte que tout ce dont on a rêvé de ce qu'on voulait faire, ben finalement, il y a des choses moins importantes que d'autres. Et que ben c'est là, à ce moment-là, quand c'est le moment de toutes les libertés, où on a la liberté de se dire, ben non, finalement, c'était même pas intéressant ce rêve-là. Il y a aussi une espèce de renoncement qui n'est pas forcément désagréable. C'est quand on a la liberté. Au moment où on a la liberté, eh bien, c'est là où on fait les vrais choix, ceux qui nous correspondent vraiment. Enfin, c'est des choses que je constate régulièrement. C'est-à-dire que longtemps, on se dit, oh, j'aimerais tant, voilà. Moi, en fait, mon rêve de tant d'années, c'est de voir des baleines. Ça a failli se concrétiser juste avant le confinement. J'étais censée aller au Canada, enfin bref, et ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Et aujourd'hui, donc ce confinement, et qui était aussi très difficile au Canada, etc., donc ce confinement m'a obligée à me freiner, puisque ce n'était pas possible. Et tous ces mois d'impossibilité m'ont fait me dire, mais finalement, est-ce que c'est si important que ça d'aller les voir sur place, parce qu'on ne peut pas les approcher, si on les respecte, on ne va pas les approcher. Et donc c'est là où ces mois de réflexion m'ont fait réfléchir sur le vrai sens de ce rêve-là, et que je peux voir beaucoup, beaucoup de reportages qui vont me les faire voir beaucoup mieux que ce que je ne pourrais faire. Vous voyez, c'est-à-dire, à partir du moment où on a la liberté de choix...
C'est important, oui. Liberté de choix.
La liberté de choix, eh bien, à ce moment-là, on fait vraiment des choix réfléchis et des choix conscients.
Je crois que beaucoup de personnes sont d'accord avec ce que vous venez de dire. Cette liberté du choix et l'anticipation aussi est importante. Vous aviez anticipé votre retraite ? Oui, beaucoup.
Oui.
Monsieur ?
Ce n'est pas du tout pour parler de ma personne. Mais tout ce qu'on a vu dans ce reportage, qui est formidable, tout le monde est bien habillé, il y a de très très beaux endroits, tout est formidable. Et puis on parle d'envie, mais faut-il avoir les moyens de ces envies ?
Oui.
La mairie doit savoir, cette mairie, enfin le département le sait aussi, le Républicain en a fait un article. Allez voir, je vous invite, pour enlever l'égoïsme qu'on peut avoir une fois qu'on a les capacités, on a les moyens pour voyager, mais tout le monde a envie de voyager. Mais allez voir la résidence qui se trouve à la rue Van der Noota. Dans quel état c'est ? Et dans quel état se trouvent des personnes âgées qui n'ont d'autre moyen que d'être là et d'attendre la mort, la mort. Et ça, c'est une honte pour un pays qui a les moyens. Il y a un article qui a été fait, mais apparemment, la résidence existe toujours. Elle dépendait du public. Le public l'a vendue à des privés. Franchement, les gens qui sont là, ça ne leur donne même pas envie de continuer de vivre. Allez voir, je vous invite. C'est horrible. Et le reportage, il ne présente que des belles choses.
Donc, votre témoignage est important, mais on a aussi besoin d'avoir plusieurs regards sur le vieillissement. Celui que vous nous apportez, certes, il existe partout dans le monde, où il y a des personnes qui sont plus démunies que d'autres et qui vieillissent plus ou moins bien. Et vous savez, le cadre ou la maladie fait qu'effectivement... Le vieillissement, parfois, c'est une dure épreuve, certes. Donc c'est important, effectivement, d'avoir un autre regard et de comparer et d'analyser et de déduire des choses. Et de là où nous sommes, que pouvons-nous faire pour ces personnes-là ? Sans interpeller les élus et autres, mais de là où nous sommes, est-ce que nous pouvons nous aussi peut-être visiter ces personnes qui sont en maison de retraite ? Est-ce que nous pouvons participer à une chorale, faire des chants ? Je vais en rester là parce que c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est important qu'on sache que nous aussi, nous sommes responsables de nos anciens.
Ben, voilà, ça a disparu.
Il y a beaucoup de maltraitance dans les EHPAD et tout ça. Il faut d'abord éduquer ceux qui travaillent dedans.
Les soignants. Certaines. Vous voulez bien passer le micro, monsieur ?
Bonjour. J'ai travaillé à domicile. J'étais à la MAPA. J'ai travaillé à domicile, je préférais, parce que j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de vie et il fallait que je fasse un mois de stage. Et le dernier stage, c'était salle découverte. Le stage découverte. Et le stage découverte, heureusement, je l'ai fait à la fin parce que ça ne m'a pas plu du tout. Donc, il y avait de la maltraitance. Déjà, on arrive... On vous douche vite fait, bien fait, à l'eau froide et tout ça, et c'est une fois par semaine.
Oui,
et...
ces constats, on les fait partout. Partout où je vais, dans le Grand Est, on entend les mêmes choses. Il n'y a pas qu'à dans la ville de Metz, je veux dire. J'ai travaillé sur le Grand Est et on entend partout cette même problématique.
On vous met d'office des protections, alors qu'il y en a qui...
Oui.
Et puis, il y a beaucoup de...
Alors, ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, c'est que ces exemples-là, nous font peur. Oui. C'est-à-dire que ça nous interpelle, nous, en se disant, nous, comment est-ce qu'on va vieillir ? Ou quel vieillissement on va avoir pour nos proches ? Comment on va accompagner au mieux ?
En plus,
c'est sûr que ça nous fait peur, ces images-là et ces retours-là, ces expériences-là.
En plus, ils payent cher. Donc, admettons, il faut qu'à une heure, tout soit propre, tout machin, et on les met, dès qu'il y a fini de déjeuner, on les met sur le côté, et puis on ne les occupe pas. Parce que lundi, il faut faire le repassage, mardi, il faut faire le frigo à fond.
Je comprends votre constat, tout à fait.
Et j'ai préféré le domicile que de travailler en EHPAD.
Donc vous travaillez à domicile. Je vais essayer... Ah zut, je voulais le mettre. Comment est-ce que je peux supprimer, Fabienne, la colonne de côté là? J'arrive pas à la supprimer. Christophe avait dit qu'il reviendrait. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages que vous souhaitez? Oui, madame.
Oui, j'avais envie de réagir au film que je trouve très dynamique, bien entendu, mais peut-être un peu trop rose. Parce que, oui. Ben, monsieur l'a dit, il ne montre que ce côté vraiment sympathique,
suggère,
des gens qui rigolent, etc.
Ouais.
Bon, mais ce n'est pas que ça.
Bien sûr.
Et je rebondis également sur une remarque d'une personne qui est derrière moi, enfin nécessairement derrière moi, qui disait « ça dépend aussi si on est seul ou en couple ».
Absolument.
C'est totalement différent. Mmh. Bon, mmh. Dans mon cas, je suis veuve depuis 3 ans et je m'adapte. Alors, déjà, première adaptation, je vais faire une petite pub. Comme j'ai une maison sur 2 étages, donc de la place. J'ai pris une jeune fille en location avec un toit 2 générations.
Ah,
et alors maintenant, je l'appelle ma fille adoptive. Ça fait 2 ans qu'elle est avec moi. C'était une fille qui était à l'école d'ingénieur, qui terminait donc sa formation à Metz, qui vient de Colombie. Et donc... Là, il y a eu vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé. En plus, elle est arrivée à peine avant le confinement.
Oui.
Et donc on s'est retrouvés confinés ensemble.
Toutes les deux.
Dans un premier temps, sur 2 étages, en communiquant par téléphone, parce qu'on ne voulait pas se contaminer. Et quand on a vu que ni l'une ni l'autre n'était malade, on a dit, bon, eh ben, je lui ai proposé de venir prendre des repas avec moi.
On partage.
Et du coup, c'est vraiment une relation très, très, très forte.
Voilà un bel exemple et une belle anticipation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette possibilité, là aussi, qui nous demande à avoir de la créativité. Voilà, il ne faut pas oublier d'être créatif. Oui, tout à fait. Vous voulez reprendre la parole?
Merci. Il est en PDF, c'est parce qu'il est en PDF.
Oui, mettons.
Tu ne l'as pas en version...
Si, je l'ai en simple.
Il le faut en PowerPoint.
Attends, ça
marche pas.
On va refermer là, et il est là. Là.
Ok.
Merci. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, on va avancer ensemble. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres témoignages sur ce film qui, certes, est plutôt positif?
Je dirais simplement aussi qu'on peut effectivement organiser sa vie. On passe notre temps à organiser notre vie. Puis je pense aussi qu'à la retraite, on peut oser l'aventure un petit peu. Faire la résilience de sa vie passée, pas devenir quelqu'un d'autre, parce qu'on ne change pas, mais essayer justement tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre, sans être excessif, mais oser. Et puis je me rappelle la parole d'un, j'ai dû le lire il n'y a pas longtemps, d'un sage, je crois, chinois, qui disait « Le jour où je serai plus curieux, je serai mort. »
Donc la curiosité est osée.
Oser, oui. Oser, il faut oser, je crois.
Tout à fait. Donc, pour reprendre effectivement ce que l'on a évoqué tout à l'heure également dans vos témoignages, est-ce une fatalité ou une opportunité de vieillir selon les avantages ou les inconvénients, les ressources que nous avons ou pas? Déjà, que signifie bien vieillir pour chacun de nous? Chacun de nous a une représentation particulière du vieillissement. Ce soit en positif ou que ce soit en négatif, on se voit comment? Quel aspect, comment on se trouve peut-être le matin quand on se lève et qu'on se regarde dans la glace en disant « Ah, ben dis donc, aujourd'hui, t'as pas l'air bien, t'as encore... t'as l'air fatigué, t'as encore les yeux cernés, je vois que vous êtes d'accord avec moi. » Parfois, il y a des jours où on se trouve plus vieux, Alors que quand on s'arrange un peu, on se dit bah finalement, ça y est, hein, t'as redynamisé là, tu t'es un peu maquillée, t'as changé de coiffure, changé les couleurs des cheveux, ou voilà. Hein. Donc c'est vrai que parfois, on alterne entre les deux. Ça peut être une opportunité, ça peut être une fatalité. Et le bien vieillir, ça peut être cette dame là qui joue à la marelle, qui pense effectivement à son histoire. Dans tous les cas, c'est une histoire de verre à moitié plein, à moitié vide. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont les constats que je fais sur ce que je suis devenue aujourd'hui, sur ma façon d'équilibrer mon temps, d'harmoniser ma vie, sur les rencontres que je fais, les activités, la créativité dont vous parliez effectivement tout à l'heure. Chacun de nous a son regard pour que ce vieillissement ne soit pas une fatalité et que ce ne soit pas un gros mot, ce mot « vieux ». Si on regarde un peu au niveau des statistiques, parce qu'il faut quand même se pencher dessus, la Lorraine comptait 157 000 seniors de 75 ans et plus en 1999. En 2030, ce chiffre atteindra 294 000. En 2040, près d'un Lorrain sur trois aurait plus de 60 ans. Ça veut dire que par rapport à 2007, on a eu un bond considérable dans les possibilités effectivement de bien vieillir et de vieillir plus longtemps. Avec la Covid, il y a eu une légère baisse au niveau de ces statistiques, hein, bien entendu. Les personnes de 80 ans vont atteindre bientôt 10% de la population en 2040, soit 237 000 personnes. Ça veut dire qu'il faudra qu'on trouve aussi des solutions pour, comme vous l'avez évoqué très justement tout à l'heure, des lieux d'hébergement ou des solutions, comme expliquait madame, de prendre des jeunes avec nous, des étudiants qui vont pouvoir aussi nous accompagner. Donc certes, ce changement démographique va peser lourd sur nos politiques locales et publiques également. L'espérance de vie, là ce sont les derniers chiffres, est passée de 47 ans en 1900 à 79,2 ans pour les hommes et 85,3 pour les femmes en 2021. Donc c'est les dernières statistiques qui sont tombées là. Pourquoi ? Ben parce que il y a eu beaucoup de progrès, hein, on a fait beaucoup de prévention, il y a eu, vous avez dû recevoir ces tests de dépistage, hein, pour le cancer colorectal, ces dépistages du cancer du sein, toutes ces sollicitations que nous proposent aussi nos médecins, d'être vigilants et d'anticiper également par rapport à notre santé. On a vu aussi ces possibilités de téléconsultation, une autre organisation des soins, une chirurgie ambulatoire très souvent, et de la télémédecine également. Vous avez peut-être pu en profiter pendant le confinement. Et pourquoi tout ça aussi? C'est parce que nous, les patients, ben, nous devenons davantage acteurs de notre santé. Ça veut dire que nous aussi, on se prend davantage en main. On a besoin de connaître les choses, on a besoin de savoir ce qu'il y a sur la petite notice de médicaments, ce qui est écrit dessus, et de la comprendre. Et heureusement, on a des pharmaciens qui sont là aussi pour nous aider à mieux comprendre quels sont nos traitements et comment on doit faire pour les associer. Tout à l'heure, on a entendu parler de ce médecin qui parlait de 4 médicaments, des influences que ça pouvait avoir sur la conduite. Hein, donc, effectivement, on a le droit de poser des questions et de savoir ce qui est le mieux pour nous. Quand est-ce qu'on commence à vieillir? On commence à vieillir dès le jour de notre naissance, hein, mais plus particulièrement 20-25 ans où le système hormonal change, régresse, et le vieillissement, donc, c'est surtout quelque chose que l'on ressent et que l'on vit. Elle peut changer d'une génération à l'autre, d'un individu à l'autre. On sait bien qu'il y a des jeunes qui se trouvent vieux, qui en ont marre de la vie. Hein, peut-être que vous avez... Madame, tu as... On va vous repasser le micro. Moi, j'ai un petit-fils de 21 ans. Pendant le confinement, il m'a dit « j'en ai marre de la vie ».
Qui est-ce qui voulait dire ?
Oui, entre dire « j'en ai marre » et « je suis vieux », il y a quand même une marge.
Oui. Allez plus loin dans votre pensée.
Mais je pense que les jeunes actuellement, enfin, pas tous,
oui,
mais beaucoup, sont peut-être trop gâtés par la vie. Ils ne savent plus apprécier la moindre petite chose. Donc, tout ce qui est numérique est en train de faire un mal énorme. Mon point de vue.
Et oui, parce que ça, et puis le confinement les a encore davantage enfermés, hein, dans ce cycle-là. Donc, physiquement et moralement, pour nous les seniors, nous savons qu'il peut y avoir un vieillissement précoce. Nous savons que nous pouvons, avec les coups de la vie, avec les coups durs, avec les échecs, avec les peurs, avec la maladie, effectivement, on peut avoir un vieillissement qui va s'accélérer subitement, où on va peut-être baisser les bras ou davantage se laisser aller. Donc, c'est important de savoir que, selon les époques et les auteurs, on a eu des personnes qui parlaient beaucoup du vieillissement. Jean-Pierre, je crois que tu avais pris des notes, toi, par rapport à ça. Sur, tu veux lui donner le micro, Fabien ? Non, non, c'est mieux.
Le processus de vieillissement commence à 20-25 ans. Baisse de la production d'hormones de croissance. La littérature est importante pour la vieillesse à cause de la pertinence et de l'actualité du thème en notre temps et comme thème universel. Montaigne est né en 1533 et se considère vieux en 1570. 37 ans.
Il avait 37 ans.
Rousseau, Jean-Jacques naturellement, né en 1712, meurt en 1778, 66 ans. Maupassant meurt à 43 ans. Mais on peut quand même expliquer que la mort de Maupassant est quand même due en partie à la syphilis, hein, je veux dire. Et Balzac meurt à 51 ans. Effectivement.
Donc des auteurs qui ont beaucoup écrit sur le vieillissement. Et vous voyez qu'à ces époques-là, eh bien, on a de la chance, nous, aujourd'hui, que notre vie peut se prolonger bien davantage. La question de base que l'on doit tous se poser, c'est quel âge on a ? Quel âge avons-nous ?
Il y a encore un témoignage, Marc.
Ah, pardon.
Oui, je pense qu'il n'y a pas que la médecine. D'ailleurs, médecine, les progrès ont été faits grâce à la science. Il n'y a pas que la médecine qui a fait que l'espérance de vie a augmenté. Il y a aussi le mode de vie, il y a aussi le travail. Le travail, on travaillait beaucoup plus il y a quelque temps. On ne faisait pas les 35 heures. Mais donc, c'est grâce à la mécanisation, grâce à tout ce qui est, entre autres, électroménager et tout le reste, il n'y a pas que la médecine. La médecine n'a jamais été une science exacte. Et quelquefois, enfin, je ne vais pas plus loin, c'était juste pour dire qu'il manquait quelque chose. C'est que le mode de vie a changé, notre temps d'occupation pour subvenir à nos besoins matériels les plus indispensables, eh bien notre occupation a diminué du moment où on est mécaniquement aidé.
Merci pour ce témoignage positif, effectivement, qui prouve que tout ce qui nous entoure et tous les moyens et les facilités.
Je voudrais préciser par rapport à monsieur, il a absolument raison. Mais malgré tout, il faut constater que les gens que je viens de nommer, c'était des intellectuels, c'était des nantis. Donc ce n'était pas des mineurs, ce n'était pas des paysans, ce n'était pas des gens qui faisaient des travaux de force, ce n'étaient pas des ouvriers. Et malgré tout, leur statut, j'irais dire, de bourgeois aisé, facile, vie facile, ne leur permettait pas de vivre vieux. À quoi vous allez certainement me retourner.
Oui, tu donnes un contre-exemple.
Blaise Pascal, parce que c'était mon idole, et lui, il est mort beaucoup plus jeune. C'était un grand scientifique, un grand philosophe, la fierté du pays.
Bien, donc on a tous effectivement des exemples intéressants. On va revenir à nous. Alors, quel âge nous considérons avoir ? Vous êtes déjà posé la question ? Oui ? Est-ce que vous sentez votre âge déjà pour... Non ? Non ? Beaucoup de personnes disent non. Marie, Fabienne, je te fais courir. Alors, on a notre âge de naissance. Marie, tu voulais ajouter ?
Eh ben moi, je dis oui, moi, je ne me sens pas, j'ai 77 ans. Dans ma tête, je n'ai pas 77 ans. Mais physiquement, parfois, j'ai bien mes 77 ans. Hélas ! Mais bon... Il faut faire avec, on s'adapte, il faut s'adapter. Je crois qu'il faut rester positif dans le sens où, bon, tu ne peux pas faire ça, mais trouve un moyen peut-être de le faire autrement, ou si ou ça. Là, ça fait 8 jours, j'ai retourné mon matelas, j'ai dit c'est la dernière fois que je le fais parce que je vais me démolir mon dos. Mais bon, je l'ai fait. J'étais quand même contente de l'avoir fait, mais la prochaine fois, non. Donc il y a une adaptation à avoir en fonction.
Une adaptation.
Parce voilà, qu'on fait des prises de conscience. La meilleure façon de vieillir, c'est l'adaptation.
On fait des prises de conscience. Je ne peux plus retourner mon matelas, donc je ne recommencerai pas. Ah, voilà,
non, j'ai senti que, bon, comme j'ai des problèmes de dos, j'ai dit là, c'est la dernière fois. Mais c'est vrai que ça, c'est difficile à accepter. Mais si on ne le fait pas, on est encore plus mal. Donc, le meilleur moyen de vieillir bien, je crois, c'est de dire, bon, toi, tu ne peux plus, tu vas te faire aider, après tout, pourquoi pas. Et puis, y a des choses, faut les accepter. Si on ne les accepte pas, on n'est pas mieux pour autant. Mm-hmm. Et puis, ça ne va pas, quoi.
Et on être dans l'acceptation, ça veut dire, effectivement, faire cette prise de conscience des conséquences, des risques que ça peut avoir pour notre santé si on a tel ou tel comportement. Donc, on a l'âge de notre naissance, c'est celui qui est marqué sur notre état civil. On a l'âge de nos organes, hein, c'est ce que Marie vient de nous expliquer. On a l'âge que les autres nous donnent. Ça fait du bien, non ? Oh, vous ne faites pas votre âge. Hein. Ah oui, ça vous arrivait aussi ? Le contraire arrive aussi. Vous ne faites pas votre âge. Moi, je ne vous aurais pas donné cet âge-là. Bon, c'est fort sympathique. Ça encourage à continuer à se maintenir en forme. Et puis, il y a l'âge que nous ressentons. Ça dépend du jour, ça dépend de l'année, ça dépend de la saison, ça dépend de notre état d'esprit, qu'est-ce qu'on ressent, ça dépend des événements, bref, de tout ce que nous avons au quotidien, tout ce que nous rencontrons au quotidien. Et notre vie changea. Oui ?
Je rajouterai une ligne, on a l'âge de notre tête, parce qu'on peut être très bien dans sa tête, et pas tellement bien physiquement, mais ça n'empêche pas qu'on a envie. Donc ce qu'on a dans la tête, je le rajouterai.
Alors on va le voir dans les diapos suivantes, effectivement, merci madame d'anticiper. On va voir comment ça se passe, et surtout, je voulais quand même que l'on reparle un peu de ces confinements successifs, qui ont fait que notre vie a changé. Tout d'un coup, et c'est ce que vous vivez aujourd'hui, on est tous masqués, on se regarde tous masqués, et on a perdu quoi, surtout ? La liberté, et surtout, voilà, merci madame, on a perdu le tactile, on a perdu le contact. Et on sait bien que sans le contact, il n'y a pas de reconnaissance. On reconnaît les choses, on reconnaît l'autre par le contact. Regardez, quand on va faire des courses, donc on est dans un magasin, on prend, on regarde dans tous les sens. Et aujourd'hui, il y a des écriteaux partout, ne touchez que ce que vous achetez. Hein ? Donc les avocats, terminés pour sentir s'ils sont assez mûrs. Le camembert ? D'accord. On a plus le droit à ce contact-là. Alors qu'on sait très bien que le contact, depuis qu'on est tout petit, le premier contact que nous avons, c'est avec notre maman, et que c'est ce contact, cette odeur-là, qui va sécuriser l'enfant. Donc notre sécurité affective, elle vient du contact. À partir du moment où on ne peut plus prendre nos petits-enfants dans les bras, hein, je pense que vous avez aussi vécu cette expérience, attention, ils sont considérés comme des personnes à risque, ou ils sont qu'à contact. On a entendu ça beaucoup, hein, mon petit-fils m'appelle, il me dit « Mamie, je ne pourrais pas venir, je suis qu'à contact. » Oui, c'est dur, hein, être qu'à contact. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire pour eux aussi ? C'est une violence aussi pour eux que de devenir subitement quelqu'un qui est qu'à contact. Donc on retire immédiatement de la classe et qu'on laisse 8 jours à la maison. Donc on a vécu cette époque-là, et nous la vivons encore, et nous espérons que ça va se terminer bientôt, qui a fait que dans notre tête, comme vous l'évoquiez très justement, madame, les choses ont changé. Et parfois, on s'est senti aussi plus âgé par ce poids-là. Interdiction de sortir, interdiction de rencontrer les autres, on ne faisait plus de courses, on avait une vie sociale qui était complètement appauvrie. Oui ?
Oui et non. Parce que je me suis rendu compte que je marche tous les jours et certaines personnes me repéraient de leur appartement. Et donc, quand on se rencontrait sur le trottoir, ils me disaient bonjour. Qu'avant, on ne le faisait pas. Donc, je sors, je continue de sortir tous les jours ou tous les deux jours, suivant ma forme, et je rentre en contact avec énormément de personnes, parce que beaucoup de personnes marchent avec la tête en bas.
Oui.
Et moi, je le remarque tout de suite, parce que j'ai appris à marcher avec un livre sur la tête, pour bien tenir la tête haute. Et donc, quand je les vois marcher, je dis « Oh, ça va pas !» Alors, ils me racontent. Et en fait, ces personnes-là, eh ben, elles sont isolées, et il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire à leurs connaissances. Mais avec un inconnu ou une inconnue, en fait, ça marche mieux.
Oui. Il y a eu des échanges parce qui ont été favorisés, justement.
Voilà. Et moi, j'ai une philosophie de vie comme ça, et toujours voir le positif et pas vraiment le négatif. Donc, je leur remets quelquefois des petites idées pour ensoleiller leur vie.
C'est bien, c'est super. Bravo et belle créativité. Notre vie a changé et j'ai souhaité quand même vous mettre un petit dessin humoristique parce que c'est important. J'aime pas le coronavirus. Oh, toi, t'aimes rien. Donc, ils étaient confinés tous les deux et devaient effectivement se poser des questions. Et cet exemple-là nous permet de dire que, dans tous les cas, c'est ce que vous venez de vivre, il nous reste le rire. Le rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. C'est une belle citation. Je crois que le rire, c'est un élément important. Savoir rire aussi de nous-mêmes dans des situations qui peuvent paraître compliquées. Garder cette capacité de transparence, de légèreté de l'enfant. Parce qu'au fond de nous, il reste toujours une part de cet enfant qui nous habite, qui continue à nous habiter. Nous, on aime encore rire comme les enfants. Donc cette fraîcheur-là, eh bien, c'est un atout, c'est un remède, c'est une antidote à la souffrance. Si on regarde un peu ce dessin, merci Jean-Pierre, que Jean-Pierre nous a fait, les cinq sens à l'épreuve du Covid-19, Jean-Pierre, tu as voulu dire quoi par rapport à ce dessin ? Fabienne va te donner le...
C'est très difficile par un dessin de représenter, comment dirais-je, les cinq sens. Alors, j'étais un petit peu... Oui, pardon, excusez-moi. J'ai représenté quelqu'un qui est aveugle, qui a le nez, j'irais dire aussi, si je peux m'exprimer ainsi, aveuglé, la bouche, et que ses mains, il cherche à toucher. Les flèches sont le mouvement que, justement, toutes ces choses qu'on désire toucher ou sentir, palper la les roses, écouter la musique, goûter un gâteau, toutes ces choses s'éloignent, et en fait, on est seul dans cette lumière bleue. Mais on est loin de cette lumière chaude et riche que les sens nous apportent. Voilà la façon dont j'ai voulu représenter cette allégorie, disons.
Oui, donc les cinq sens ont été fragilisés par cette période de Covid, par cette période où on a été plus isolés, hein, parce que c'est important de pouvoir sortir, respirer, toucher, goûter l'air. Et effectivement, on a été handicapés au niveau de nos sens pendant cette expérience Covid.
Et j'aurais pu rajouter un personnage en face. C'est quand même une grosse importance, c'est l'autre, hein, au niveau des sens.
Oui. Bon, on se doute bien qu'il tend les bras vers un autre imaginaire.
Voilà, exactement.
Ça, ça revient à ce que Madame disait tout à l'heure par rapport aux personnes qui vivent seules. Ça ne devait pas être évident, effectivement, de passer ce cap. Parce qu'on a peur. On a peur des conséquences. Et la peur se définit comme la sensation d'angoisse provoquée par la présence d'un danger réel ou imaginaire. On a tous eu peur. Oui. On est tous vaccinés aujourd'hui, je l'espère. Et on a quand même tous eu peur. Des conséquences de ce que les médias voulaient bien nous donner comme information. Des êtres de notre famille qui ont été touchés, des êtres qui sont décédés aussi dans nos proches. Donc, quelque part, cette peur-là, elle a généré en nous et dans notre tête, on a pris un coup de vieux, certainement, comme vous l'avez évoqué, madame, tout à l'heure. Cette peur-là, eh bien, là, on est devant le cas du petit chaperon rouge et du loup, hein. C'était une peur d'enfance, une peur ancestrale. Mais on a tous vécu la peur à l'intérieur de nous, qui s'est transformée parfois en migraine, parfois en maux de ventre, parfois en douleur du dos. Le corps a transmis ces messages de peur-là et s'est manifesté pour nous montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Raffaella qui dit finalement, même si l'on ressent un inconfort, de l'anxiété, de la peur, parfois de la tristesse, le fait de traverser cette crise peut aussi se révéler une opportunité pour avoir enfin du temps pour penser à soi et remettre éventuellement sa vie sur une voie qui nous ressemble davantage. Est-ce que vous avez envie de réagir à cette citation, Jean-Pierre ?
Pardonnez-moi, j'ai un petit temps de retard sur la réflexion précédente. Quand on parle de peur qui, soi-disant, serait derrière nous, je ne crois pas. Parce qu'il y a la peur consciente et puis il y a la peur, justement, imaginaire, qui, elle, dans un petit tiroir au fond de notre subconscient, qui est encore là. Indépendamment de nos vaccins, nous tous, on sait que, malheureusement, cette pandémie n'est pas forcément terminée. Et cette pandémie nous conditionne beaucoup dans notre conduite de tous les jours. On parlait tout à l'heure de doser et d'oser. Justement, actuellement, on n'ose pas. Alors, on dose sous la torture, mais on n'ose pas faire certaines choses parce que malgré nous, dessus de nous, il y a encore un petit nuage virtuel qui nous dit que notre liberté n'est pas encore recouvrée, quoi. Donc, Raffaella, elle philosophe, c'est bien. Hein, elle parle de progrès sur soi, de demain. Mais moi, je suis encore un petit peu à aujourd'hui, quoi. Tout en étant, effectivement, d'ailleurs, ayant dépassé les premiers jours de la pandémie.
Oui.
Donc hier, aujourd'hui et demain. Et alors, je crois en demain.
On va y venir à ces trois temps, passé, présent et futur. Monsieur.
On pensait qu'il y aura un avant et un après cette pandémie. On pensait que le fait qu'il est prouvé en quelque sorte parce qu'il nous arrive que nous sommes presque des rien, nous sommes faibles, nous sommes donc on pensait qu'il y aura plus d'humanisme après que le voisin dira toujours bonjour, est-ce que tu veux que je t'aide ou qu'il me propose quelque chose ou des trucs de ce genre-là mais ce n'est pas le cas malheureusement. On pensait que l'argent n'allait plus primer. Les intérêts personnels à laisser place aux intérêts collectifs. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage.
Ce n'est pas le cas partout. Mais on peut pas... Il y a quand même des exceptions, je pense, de prise de conscience qui ont permis des changements dans les relations entre les personnes, dans la communication avec les voisins, dans les échanges avec nos enfants, nos petits-enfants. Il y a quand même des choses qui ont changé. Dans notre désir de vivre mieux, dans la façon aussi d'équiper peut-être notre appartement ou notre jardin. Je ne crois pas qu'il faut être aussi catégorique. Tout n'est pas perdu, mais je sais bien qu'il y a le verre moitié vide et le verre moitié plein, mais tout n'a pas été négatif. Madame ?
Je vois dans la phrase de Raffaella un mot, c'est « opportunité ». Et c'est vrai qu'on se serait tous passés de cette crise du Covid, mais pour moi, par exemple, ça a été une opportunité. Dans mon entrée, il y avait et il y a toujours une personne un peu plus âgée que moi, très réservée. Et c'est justement la période, et je ne voulais pas la forcer, vous voyez, elle est très réservée, donc elle a le droit d'être réservée, mais je voyais bien, elle vit seule et tout ça, donc j'avais très envie d'aller vers elle, et c'est justement le Covid qui m'a permis ça, et j'ai eu raison à ce moment-là de forcer, entre guillemets, un tout petit peu sa réserve, parce qu'elle vivait pas très bien cette période. Et donc, moi, je lui ai proposé de faire ses courses. Parce que je considère que oui, je fais partie des personnes âgées, d'accord, mais je suis encore un peu en forme et je peux encore faire quelque chose pour les autres. Et donc, c'est le Covid qui a fait le début d'une grande amitié. Nous téléphonons tous les jours. On est à un étage seulement, mais comme on ne veut pas se déranger, mais on a pris l'habitude de se téléphoner tous les jours. Ça me permet d'avoir un peu une photo de son état d'esprit du jour. J'ai maintenant les coordonnées de sa fille. Et lorsqu'elle sera en danger, moi, je le saurai avant sa fille. Et donc, ça, vous voyez, il y a aussi des opportunités relationnelles qui font que, certes, une catastrophe, une guerre, une pandémie, etc., tout ça, ce n'est pas des choses très agréables dont on aimerait bien se passer, mais ça peut aussi être une opportunité pour intensifier un relationnel et pour pouvoir aller vers les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas dans une vie normale. Vous voyez, dans la vie normale, cette vieille dame, on se rencontrait juste au moment d'aller chercher le courrier, on échangeait quelques mots, mais je sentais bien qu'elle était sur la réserve, en temps normal. Or, le Covid a permis qu'elle abaisse un petit peu sa garde et qu'elle était contente.
Tout à fait, belle opportunité, tout comme nous avons eu l'opportunité de lire quand on ne prenait pas le temps, de regarder une belle émission, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'opportunité peut-être de cuisiner, d'apprendre à chanter, d'apprendre une langue étrangère, de faire un album photo, d'écrire des poèmes, d'écrire un livre. On a eu des opportunités, les avons-nous saisies ? Hein ? Il faut voir aussi quel a été notre comportement dans ce temps-là. C'est intéressant aussi parce qu'on s'est vu peut-être différemment. On a observé aussi comment on fonctionnait. Et l'essentiel, c'est ça, c'est le lâcher prise. Moi, j'aime beaucoup cette image de la montgolfière, parce que si on veut changer, si on veut effectivement modifier notre façon de voir les choses ou de bien vieillir, va falloir lâcher du lest. Va falloir faire des deuils de certaines choses qu'on ne peut plus faire, retourner un matelas, aller faire une course à pied, aller en montagne dans des altitudes qui ne nous correspondent plus. Enfin, effectivement, il va falloir, pour bien vieillir, lâcher du lest et trouver ce qui nous correspond et ce qui nous convient le mieux. Ça, c'est un temps très important, cette image de la montgolfière qui s'élève, parce que ces deuils, entre guillemets-là, on va les faire d'une manière consciente, mais sans se culpabiliser parce qu'on les fait. Ce n'est pas parce que je n'arrive plus à faire mon ménage comme avant que je suis nulle. Hein. C'est trouver en disant, ben non, bien au contraire, je prends soin de moi, peut-être que je peux demander de l'aide, peut-être que je peux effectivement faire appel à quelqu'un, parce que je ne peux plus faire. C'est être dans cette clairvoyance qui va faire que je vivrai mieux, je vieillirai mieux, plutôt que de prendre des risques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je reviens sur l'anticipation. Qu'est-ce qui va me permettre d'évoluer ? Parce que on a bien dit, on l'a bien entendu dans le film, que l'idée de base, c'est de continuer à progresser. Si notre corps vieillit, par contre, dans notre tête, nous pouvons continuer à progresser. Nous pouvons continuer à grandir. Parce que mal vieillir, c'est quoi ? Eh bien, c'est être dépendant. Je pense que personne parmi nous n'a envie d'être dépendant. Avoir de gros ennuis de santé, des maladies, on a évoqué tout à l'heure, l'isolement, la solitude, la mort des proches, le stress chronique. Voilà, tout ça, ça va faire qu'on est tellement affecté, tellement en souffrance, qu'on prend des coups de vieux au fur et à mesure. Et puis, avoir une vieillesse positive et heureuse, c'est garder du temps pour nous et pour les autres, pour ceux que nous aimons. Alors, on va avoir maintenant peut-être un peu plus la possibilité de se retrouver, de faire des réunions de famille, des temps d'échange, des temps de partage. Moi, c'est la première fois que je reprends en présentiel depuis un an et demi. J'ai travaillé en visioconférence précédemment. Ça change complètement. Ça change complètement. J'étais un peu émue de revenir vous voir aujourd'hui en me disant, ben voilà, je relance quand même mon activité autrement que de rester derrière mon écran où le contact n'est pas du tout le même. Donc, c'est être plus en sérénité, plus en harmonie avec soi-même. C'est transmettre des choses, des compétences. On a acquis des choses pendant cette période de confinement. Pendant ces peurs-là, on a compris aussi des choses à transmettre. Parce que par rapport à nos enfants et nos petits-enfants, on continue à être des relais. On a peut-être aussi besoin de plus d'indépendance, de savoir comment on va mieux gérer notre vie, d'améliorer nos loisirs, d'aller voir ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, et surtout d'être heureux. Je crois que cette colonne-là, ce n'est pas de l'inatteignable, tout ce que je vous ai écrit là. C'est des choses sur lesquelles on peut effectivement réfléchir pour pouvoir vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions qui soient. Parce que qu'est-ce qu'on vient de vivre là ? On vient de vivre, comme vous l'avez très bien décrit, madame, avec la petite dame du dessus, la solitude. Alors, on avait des choix, où on allait frapper à la porte et on lui demandait si elle avait besoin d'aide et en affirmant qu'on était présent, où on était de plus en plus introverti et on voyait plus personne. Cette solitude-là, sur la toile de Hopper, on l'a choisie avec Jean-Pierre, qui est peintre, pour une raison assez particulière. Jean-Pierre, tu veux bien décrire cette toile ?
Alors, merci. Bon, ben, c'est une interprétation très, très personnelle. Hein. Déjà, pour moi,
Hopper... Plus près le micro.
Pardon ? Trop loin ? Plus près, d'accord. C'est une interprétation personnelle. Déjà, Hopper, c'est un peintre américain, et il me plaît beaucoup. Et ça a vraiment été le peintre américain qui a osé, déjà à l'époque, il est contemporain quand même, montrer l'individu relativement nu, là, je dis relativement, oui, dans sa solitude devant le matérialisme américain. Et c'est le peintre de la solitude, le peintre du silence. C'est extraordinaire, le ressenti de sérénité que l'on peut ressentir, excusez-moi du pléonasme, que l'on peut ressentir en regardant ce tableau. Il n'y a pas de violence, mais il y a un très grand calme. On sent qu'il y a une introspection de la part du personnage, de la part du modèle. Bon, c'est une femme. Je pense que le sujet était plus agréable qu'un homme, sans doute. Et puis, il y a cette lumière, il y a ce silence de presque de cathédrale. J'ai trouvé que c'était très, très beau. Et puis, on sent que cette personne réfléchit. C'est un tableau qui donne à réfléchir, j'ai l'impression.
Et elle regarde dehors.
Elle regarde dehors, la lumière, l'ouverture, la fenêtre.
N'avons-nous pas regardé dehors quand on n'avait droit qu'à une heure de sortie ? Quand on avait la chance d'avoir un balcon, un jardin, ça facilitait les choses. Mais quand on n'avait droit qu'à une heure de sortie, notre regard se prolongeait à l'extérieur. On se demandait ce qu'on voit les voisins, les chiens, les chats qui passent. Moi, j'habite près de la forêt. J'ai vu plein de chevreuils que je ne voyais pas avant, plein d'écureuils, plein d'animaux qui sont réapparus alors qu'on ignorait qu'ils étaient tout près de nous. Donc voilà, ce regard-là qu'on a porté sur l'extérieur a peut-être nourri en nous quelque chose de bon. Nous a peut-être apporté une caresse intérieure en disant, ben ouais, cette vie-là que je ne regardais plus avant, les fleurs qui poussent, puisqu'on a eu le printemps, on a eu le temps de l'apprécier, eh bien, je me nourris aussi de ce que je vois là. Et se nourrir, c'est effectivement, dans notre tête, améliorer cette croissance. On va revenir sur cette croissance, mais avant, je voulais aussi vous montrer cette œuvre de Goya qui a représenté ce tableau, Les Vieilles. Ça s'intitule, je crois, Les Vieilles ou le Temps, Jean-Pierre, hein, c'est ça ?
Pardon ?
Les Vieilles ou le Temps.
Oui, enfin, Goya, il a fait presque une introspection personnelle, une catharsis. C'est relativement sombre, là, il y a des couleurs, je suis d'accord, mais le sujet est sombre. Goya est peintre de la cour royale d'Espagne. La cour royale d'Espagne s'est sauvée. Napoléon Ier envahit l'Espagne, il y a des massacres, des fusillades. Goya a 40 ans, mais il est vieux, hein, il est déjà vieux, il a peu de cheveux. Et il peint des choses relativement, je ne vais pas dire morbides, mais très tristes. Là, c'est un tableau, cette allégorie représente apparemment Chronos, le dieu du temps, le dieu du temps qui passe. Il est au-dessus, il surveille, il a son balai, d'habitude il a une faux. Mais là, je pense que Goya a toujours été un petit peu humoristique. Et le balai montre bien qu'il va se débarrasser de cette vieille jeune femme coloré qui se regarde dans un miroir. D'ailleurs, il a pris la tête de la reine d'Espagne, ça ne manque pas d'humour. Et à côté de cette vieille femme, il y a la complicité, la complice de Chronos. La dame se regarde dans un petit miroir, elle se trouve encore belle, et l'autre lui montre un autre miroir, c'est-à-dire la réalité. Donc, quand elle aura peut-être compris que le temps passe, Chronos, avec son balai comme de la poussière, il va la balayer, et elle aura fini sa vie.
Alors, sur le document qu'elle lui montre, c'est noté « Le temps passe ».
Le temps passe.
Le temps passe. Et bon, on soupçonne qu'elle se regarde, mais on peut penser aussi dans l'interprétation de Goya qu'elle regarde une image d'elle quand elle était plus jeune. Donc, vous voyez, c'est très percutant, hein, les peintres qui peignent.
Moi, je crois qu'elle se croit encore jeune.
Elle peut se trouver, ben oui. Elle a fait un arrêt sur image. Oui, ça...
Alors justement, parlant d'arrêt sur image, est-ce que ça correspond à sa période espagnole, où il a fait des bêtises, ou est-ce qu'au contraire, il a mis 6 ans pour le faire, le tableau, M. Goya?
Ça correspond à la période.
Sa période espagnole.
Il est espagnol, oui. Goya.
Ah, il est espagnol, donc sa période...
Goya, c'est le peintre de cour espagnol.
D'accord.
Et là, il a plus de travail, le roi est parti, et puis il y a l'armée française.
Mais pourquoi la référence à 1808 et 1814?
Parce que la toile a été peinte entre 1808 et 1814. On ne connaît pas la date exacte.
Il n'a pas peint que cette toile, je te signale.
Bien.
J'ai compris.
Une autre toile, un peu différente, celle-là, c'est Vieillir en 2021. Alors, qu'est-ce qu'elle nous renvoie, cette image? On est dans une complicité. Communication. Alors, on peut supposer qu'ils sont en train de regarder leurs petits-enfants en visio ou qu'ils cherchent leur prochain voyage après le confinement. Dans tous les cas, l'usage des médias, là, s'annonce effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très positivement. C'est-à-dire qu'on partage ensemble sur quelque chose qui nous permet de sortir de la bulle, de sortir de l'intérieur, de sortir de la maison, où les médias nous ont effectivement permis de communiquer avec l'extérieur. Et je crois que ce n'était pas négligeable, hein, d'avoir, quand on a la possibilité... Madame, on vous donne le... Heureusement qu'il y avait les médias. Tu passes, Fabienne, le micro, s'il te plaît.
Ma maman, elle a 93 ans et on l'a mis sur WhatsApp, elle a pu communiquer avec tout le monde et ça fait passer le confinement.
Alors, à 93 ans, la maman a été sur WhatsApp. Je suis dans l'obligation de répéter pour les personnes qui vont nous écouter dans le temps. Grâce à WhatsApp, elle a pu garder contact avec les enfants, les petits-enfants. Voilà. Donc, les médias ont du bon. Parfois, effectivement, on critique nos petits-enfants, mais je crois que si on n'avait pas eu ça... Eh bien, on aurait été profondément isolés. Profondément isolés. Moi, j'aimais tous les mardis, je rencontrais donc les participants tous les mardis matins. C'était un réel bonheur que de les retrouver sur l'écran, même en petite vignette, et de voir qu'il y avait des liens qui se créaient entre eux. Ça, ce n'était pas gagné, que par rapport à cet aspect médiatique, il y a des liens qui se créent entre les personnes qui participaient à mon atelier. Ça a été des moments très forts. Et moi, je vous avoue que ça m'a tenue pendant tout le confinement. Parce que d'une semaine à l'autre, je préparais mes interventions suivantes. Et ça a créé du lien. Et maintenant, il y a encore des demandes qui se font pour poursuivre pour les personnes qui sont plus éloignées. L'éclosion de la pensée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'éclosion de la pensée? Avoir une pensée qui s'ouvre. Oui, c'est ça. Ce geste d'ouverture, ça veut dire que notre système nerveux, en neurosciences, ne connaît ni le passé, ni le futur. Parce que quand on se souvient de quelque chose, notre système nerveux, il s'en souvient, mais avec les émotions, avec le ressenti, avec les croyances, avec les suggestions, tout ce qui habite notre intellect. Donc quand on se souvient d'un souvenir passé, en réalité, c'est pas du tout du souvenir exact dont on se souvient, mais de ce que l'on en a fait de ce souvenir du passé, de tout ce qu'on a mis dedans. Et le futur, c'est pareil, on ne peut que l'anticiper, que l'imaginer, mais encore avec notre propre grain de sel, pour « j'aimerais que ce soit comme ça », ça ne sera pas forcément comme ça. Donc le système nerveux nous ramène dans quelque chose d'important qui est l'ici et maintenant. Le système nerveux n'est que dans le présent. Et notre éclosion ne peut se faire que dans le présent. C'est-à-dire que c'est maintenant que nous devons réfléchir à notre façon de penser, de communiquer, pour être dans une évolution. Alors j'ai repris ce texte de Victor Hugo, que je trouve particulièrement beau par rapport à la pensée. Qui dit, je m'appuie sur cette phrase, je ne vieillis pas, au contraire. C'est à cela d'ailleurs que je sens l'approche de ma mort. Mon corps décline, certes, par contre, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. Et j'ai trouvé cette citation de Victor Hugo très intéressante, parce qu'elle rejoint quelqu'un que vous avez certainement connu, qui s'appelle Axel Kahn. Ce généticien cancérologue qui est décédé en juillet. Alors, je vous conseille vraiment ces livres, ils sont extraordinaires. Et le bien dans tout ça, et les chemins, il y en a beaucoup d'autres. Axel Kahn a donné beaucoup de témoignages que vous avez pu suivre sur sa fin de vie, en restant toujours très positif, en continuant à vivre et à absorber le temps, en prenant, en goûtant le temps, là encore au niveau des cinq sens. Et c'était parti sur une réflexion de son père qui, avant de se suicider, je crois qu'il devait avoir une trentaine d'années, Axel Kahn, quand son papa s'est suicidé, il lui a écrit deux choses. Il lui a écrit « Sois raisonnable et humain ». Et je crois que cette phrase-là a accompagné Axel Kahn tout au long de son parcours. Et que s'il est devenu ce généticien, ce cancérologue et cet écrivain extraordinaire, c'est parce qu'il a suivi ce chemin-là. Donc, voyez combien notre pensée peut croître. Et dans les livres d'Axel Kahn, eh bien, vous retrouverez tout ce parcours, toute cette cohérence de vie. Je vous conseille vraiment de lire ou de relire certains textes d'Axel Kahn. Je vous en donnerai encore un tout à l'heure. Donc, lui, il est vraiment pour cette notion d'éclosion de la pensée qui, certes, va nous demander un effort, mais qui va nous demander aussi peut-être de lire, de chercher certains auteurs, certains tableaux, certaines musiques, d'évoluer avec ce qui nous entoure. Vieillir, c'est donner du sens. Donner du sens aux événements de notre vie. C'est accepter. Marie-Jeanne disait tout à l'heure, accepter ce que je ne peux plus faire. Eh bien, je me suis trouvée devant un imprévu quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire le ménage comme avant. Ah, ça, c'était imprévu. Ben, je dois accepter, puis je dois trouver aussi des solutions qui vont me permettre d'améliorer. C'est regarder au-dedans, c'est cette éclosion de la pensée. C'est mettre de l'intensité dans la vie. Parce que si on ne met pas d'intensité dans nos vies aujourd'hui, on n'en mettra plus après. On a le droit de mettre cette intensité. D'avoir ces vies épanouissantes. De savoir qu'il y a deux choses, il y a l'homme extérieur, lui il vieillit, mais il y a l'homme intérieur. Et que c'est vers cet homme intérieur-là que nous pouvons aller trouver sa tâche. Tout à l'heure, Madame parlait de cette étudiante qui était à la maison. Ben, c'est trouver sa tâche, c'est trouver sa mission. On aide quelqu'un et en même temps, on est dans le partage. Chacun de nous peut trouver dans son plaisir de peindre, de dessiner, d'écrire des poèmes, de vivre, de communiquer avec les autres. C'est trouver sa tâche. Ça veut dire progresser en amour. Grandir et laisser vibrer en moi cette notion de sentiment. Mettre de la curiosité dans chaque rencontre. Aujourd'hui, on arrive, on dit, vous ne saviez pas ce que vous alliez écouter, ce que vous alliez voir comme film, moi je ne savais pas qui allait être là. C'est une curiosité. Et la curiosité, elle nous permet de nous poser des questions et d'avancer et d'évoluer. Et voilà, je reprends Axel Kahn et cette phrase magnifique. Je crois en une humanité rayonnante. Tant que je suis capable d'éprouver la beauté du monde, le malheur absolu, à mes yeux, n'existera pas sur Terre. Virus ou pas, je verrai fleurir les jonquilles, nivéoles, encolies et orchidées sauvages, et je me sentirai le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Quel beau testament il nous laisse là, Axel Kahn. Ça veut dire que ce n'est pas dans les richesses, ce n'est pas dans l'avoir qu'on va se nourrir, qu'on va grandir, mais c'est bien aussi et surtout dans notre capacité de recevoir les événements, dans notre capacité de les traduire et de les vivre en profondeur à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il nous dit. Comment je regarde des vitraux magnifiques. J'arrive ici, la salle est superbe. Comment je regarde, comment j'apprécie cette chance d'être là, ensemble, aujourd'hui. Elle ne se reproduira plus. Elle est unique. Goûtez l'instant unique. J'avais un de mes formateurs extraordinaires qui me disait souvent, « Marie, quand tu rentres dans une salle, il faut goûter la salle. » Comme ça. Une salle, ça se goûte. Ça a une saveur. Et c'est dans cette dynamique-là que l'on peut percevoir les autres. Vous savez, on dit souvent, « ça me dégoûte ». Je ne peux pas le sentir. Hein ? Si je perds le goût, on était bien dans les cinq sens tout à l'heure, ce n'est pas des réflexions qu'on fait par hasard. Ça veut dire que tout notre corps participe à l'événement. Donc, soyons bons pour notre corps. Soyons créatifs pour nous ajuster à une nouvelle réalité. Ce qu'on vit aujourd'hui, après l'épisode Covid, après les confinements, après les masques que nous portons, eh ben, c'est une nouvelle réalité. Moi, je crois vraiment en l'avenir possible. Et surtout, nos enfants ont certainement pris conscience, et nos petits-enfants, de valeurs que nous pouvons, nous, en tant que grands-parents, aussi leur expliquer et leur transmettre. Ça aussi, c'est notre tâche de transmettre ces valeurs-là. On va vous proposer, avec Virginie, quatre ateliers qui vont donc sur des dates différentes. Il y a une date, je crois, Virginie, qui change sur le petit programme que vous avez dû recevoir. Jeudi 14 octobre, les ateliers donc ont lieu ici, de 14h30 à 16h30, 2 heures, où on échange en groupe. Le premier atelier sera « Vivre vieux, vivre mieux ». Bon, dans la notion de prendre soin de soi au quotidien, oui, madame. Oui. Virginie, excuse-moi, les horaires des ateliers, c'est 14h16 ou 14h30 ? Pardon, je dis une bêtise, 14h16. Vous avez raison, merci de me permettre de rectifier. 14h à 16h, jeudi 14 octobre. Le 20 octobre, apprivoiser ses émotions. Allez regarder un petit peu comment je suis quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai peur, quand je doute, quand je suis dans des notions de regret, de jalousie et autres, comment je suis? Comment ces émotions-là vont se traduire sur et dans mon corps pour mieux comprendre mes réactions? Le vendredi 29, nous allons travailler sur l'estime de soi, sur les croyances que nous avons, parce qu'on reste toujours l'enfant que nous avons été, avec les croyances que nos parents nous ont inculquées bien souvent et qu'on porte encore aujourd'hui. Donc, comment bien cultiver cette estime de soi, ces ressources personnelles, aller les chercher, aller voir ensemble. Donc, on fait des échanges autour de photo-expression, autour de petits jeux de rôle, autour d'images, autour de dessins, autour de partage en 2, 4, petits groupes ou grands groupes. Hein, c'est très dynamique, ces ateliers. Et puis, le jeudi 4 novembre, bon, on va regarder ensemble comment gérer le stress. Et quelles sont les réponses adaptées, à la fois dans la détente, la relaxation, la respiration, toutes les techniques que je peux mettre en place pour me sentir plus à l'aise. Pour ces séances-là, je vous demanderai d'apporter 2 petits coussins, une couverture, et de vous mettre en tenue confortable avec des chaussettes aux pieds. Donc la séance du 4 novembre, merci d'apporter couverture, coussins, chaussettes, pour que vous puissiez être à l'aise et faire ensemble des mouvements qui vous conviendront. On va ensemble chercher des clés. Des clés, mais des clés personnelles. C'est-à-dire que les clés de la voisine ne seront pas forcément la vôtre ou celle du voisin, mais vous allez vous retrouver dans vos attentes et vos besoins et savoir ce qui vous convient le mieux. Et avant de vous présenter 3 autres livres, je crois que cette réflexion-là est importante. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu envie d'apprendre des choses, de partager, de donner vos témoignages. Vous n'êtes pas là par hasard. Sinon, vous seriez resté en train de vous promener. Si vous êtes là, c'est que vous êtes sur un chemin d'évolution, sur un chemin d'épanouissement. Donc cette phrase-là est importante. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est qu'on apprend jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, on apprend. Alors, pour nous aider dans ce parcours-là, moi j'ai ces quatre livres assez extraordinaires. Marie de Henzel, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Donc je vous le conseille, elle en a écrit plusieurs, mais celui-là il est assez extraordinaire aussi, avec un franc-parler et puis des exemples concrets du vécu de son histoire. Donc Marie de Henzel, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, vieillir sans être vieux. Donc premier ouvrage qui est très intéressant. Et puis, pour faire vos méditations, vos relaxations, peut-être connaissez-vous les méthodes haïku. Les petits textes de haïku sont des textes simples qui vous proposent une méditation pour la journée. Alors, on va regarder la méditation du jour. Pardon ? C'est japonais. Donc, tiens, tu veux nous lire la méditation du jour ? La petite phrase du jour, Jean-Pierre ? Pendant que Jean-Pierre cherche la méditation du jour, le livre incontournable, c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince qui nous parle de notre moi profond, de notre intérieur, disons qu'effectivement, ce renard qui est là à apprivoiser, c'est une partie de nous. Une partie de nous qu'on va rencontrer, qu'on va apprivoiser doucement. Et c'est aussi ça, apprivoiser le vieillissement. À l'image du petit prince qui rencontre son renard, qui prend soin de sa rose et qui, au travers d'expériences, du contact avec les autres, du lien social, peut être en harmonie. Donc ce livre-là, bien sûr, est important. Et donc Jean-Pierre, tu nous lis...
Il a pas ses lunettes.
Je l'ai vu,
mais pas la fin.
Alors, tu as le micro assez proche.
On est bien le 21, hein? Entrée dans l'automne, les retrouvailles chaleureuses avec son vieux jean, Virginia Colpart. Bien se connaître, nos émotions, nos choix de vie, nos passions. Qu'est-ce qui nous définit ? De même que nous sommes curieux envers ceux qui deviendront nos amis, nous devons nous intéresser vraiment à qui nous sommes. Non par égocentrisme, mais plutôt pour bien connaître ce qui nous entrave ou, à l'inverse, ce qui nous propulse, puisque nous passons essentiellement notre vie avec cet être-là, nous-mêmes. Connaissons-le davantage que tous les autres.
Connaître ce qui nous entrave et connaître ce qui nous propulse. C'est bien dans la thématique du jour. Donc c'est le livre du haïku de Pascal Senck. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous donner les références. Pascal Senck, S-E-N-K, Mon année haïku. Donc, ce sont des petites méditations au quotidien que vous pouvez retrouver agréablement chaque jour, comme un petit temps avec vous-même. Et ça peut devenir l'objet d'une méditation. Voilà, vous pouvez lire ou les deux petites phrases qui sont au-dessus ou le texte complet, et puis réfléchir dessus et voir dans quoi vous vous reconnaissez. Oui, il est où le micro ? Il est où le micro, Fabienne ?
Il est là.
Pardon.
Non, elle doit passer le livre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voulez avoir des réactions sur les ouvrages ? Vous souhaitez... Monsieur, pardon. Oui. Alors, il y en a bien d'autres, des ouvrages intéressants. Mais bon, voilà, pour aujourd'hui, je vous en donnerai chaque fois aux ateliers des titres comme ça, à chaque atelier. Vous aurez des outils pour repartir, vous ne repartirez pas les mains vides. Vous aurez la possibilité de retrouver d'autres moyens de vous ressourcer. Monsieur, nous vous écoutons.
Je suis un peu désolé, c'est que la conférence est interactive, ça veut dire qu'on peut réagir. Il y a deux ou trois choses qui sont passées depuis tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que ce que je vais... moi, raconter ou réagir à cela efface que ce qui a été présenté. Ce qui a été présenté est formidable. Cependant, le grand personnage qui est Axel Kahn, vraiment un grand personnage, d'une part, il était le président de la Ligue contre le cancer.
Excusez-moi, merci de laisser votre évaluation, madame, avant de vous sauver. On vous a donné... Excusez-moi, j'arrive tout de suite. On vous a donné des évaluations. Nous vous remercions de bien vouloir les remplir rapidement, parce que pour nous, c'est une base. Nous sommes dans un échange et aussi dans un travail. Donc, nous devons évaluer votre ressenti. Donc, si vous manquez de crayons, de papier ou autre, faites-nous signe, on vous les prêtera. Mais merci de bien vouloir remplir ces évaluations. Elles sont posées là-bas. Vous n'en avez pas ? Vous voulez qu'on vous en donne ? Marie, je te laisse les distribuer pour les personnes qui n'en ont pas. Excusez-moi mille fois, monsieur.
Je vous en prie.
Je reviens vers vous.
Alors, donc, il avait une notoriété, mais il était sous la lumière. Par contre, si on prenait... son bonheur et le fait, entre autres, il était dans la lumière. Mais prenez Balzac, par exemple, ou prenez encore Van Gogh, ils n'ont jamais été heureux. C'est après qu'ils aient été connus et qu'ils se sont devenus célèbres, mais ils n'étaient plus là. Donc, ce qui est sorti du contexte du livre, on ne peut pas dire que c'est un bonheur béat, mais dans la mesure où c'était, entre guillemets, quelqu'un, parce que la notoriété était assez répandue. Et donc, je pense que c'est cela. Et puis, il y a autre chose, quand on parle de l'éclosion, en fait, je suis scientifique, je n'ai rien à voir avec ni littéraire, ni la psychologie, quand on parle de l'éclosion de la pensée, il n'y a aucune éclosion qui se fait de rien. Elle se fait à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, ça veut dire qu'il y a un tout petit peu, au moins, antérieur au moment de l'éclosion. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, effacer un passé, c'est pas possible. Notre
ah mais non.
Père, c'est le passé.
Bien sûr qu'on peut pas l'effacer, j'ai jamais voilà. Dit ça. Bien au contraire, on ne l'efface pas.
On s'écarte un peu là.
On s'en fait une image avec le ressenti de l'époque, qui n'est pas forcément celui qui a été vécu à ce moment-là. Notre histoire d'enfance, prenons un exemple simple. J'ai des mauvais souvenirs, ou des bons souvenirs d'ailleurs, d'enfance. D'un côté, je vais les aggraver s'ils sont mauvais, et d'un autre côté, je vais les améliorer s'ils étaient bons, aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe au niveau de la pensée. Parce qu'on ajoute des perceptions. Notre mental, notre intellect complète le souvenir. Mais ça ne sera jamais le souvenir lui-même. Voilà. Mais bien sûr que non, on n'efface pas le passé. On le vit avec notre pensée d'aujourd'hui. Avec ce qu'on est aujourd'hui, avec notre vie, nos expériences, nos souffrances et nos joies et nos bonheurs.
Je suis d'accord. Et là où je suis pas d'accord avec monsieur, c'est que quelqu'un comme Axel Kahn, il a quand même une vie merveilleuse et pourtant, il avait démarré sur de mauvais auspices, le pauvre. Voir son père se suicider sous ses yeux, ça l'a pas empêché d'être un brillant généticien, un très grand chercheur, un très grand philosophe. Et très sincèrement, il est parti de rien, justement. Donc, il a eu la même chance que Balzac ou les autres, avec peut-être un petit zeste de volonté qui lui a permis de faire de grandes choses. Je voudrais terminer mon discours par un petit proverbe de Reich qui est tombé du livre d'Eric, et qui dit que le monde a été créé. Qui dit que le monde a été créé avec des pays, avec de l'eau pour y vivre, et des déserts pour y trouver son âme.
Je pense que Axel Kahn a eu aussi son désert. Hein. Ne croyez pas qu'il a eu une très belle vie, bien au contraire. Madame, vous vouliez...
C'est une petite conclusion.
Merci.
Donc, on a eu ce confinement, mais moi, le mot qui m'avait interpellée dès le départ, c'était « accepter ». Donc, si on était déjà dans cette acceptation, je pense que c'était peut-être un peu plus facile. Ça n'a jamais été facile, mais je pense que c'était plus facile. Et une petite autre réflexion, le téléphone permettait quand même la communication avec d'autres personnes, ce qui était quand même pas mal.
Oui,
même sans parler des réseaux sociaux, hein, je parle du téléphone, avoir la personne au bout du fil, discuter, c'était important.
On avait perdu le tactile, mais on avait encore la communication possible.
Je voudrais, pour apporter... disons mon point de vue sur cette conférence. Donc on a parlé de fatalité ou d'opportunité. Alors, en pourcentage, je dirais la fatalité, c'est 1%, parce que là, on ne peut pas l'arrêter. Et l'opportunité, je trouve que c'est quand même merveilleux. On a la liberté, on a du temps. Et le premier mois où j'ai été en retraite, j'ai été épatée de recevoir à la fin du mois un salaire. Et j'ai l'impression que je ne le méritais pas. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que je communique avec énormément de gens à l'étranger qui n'ont pas cette chance d'avoir nos retraites, ou petites ou plus grandes, mais c'est merveilleux.
Tout à fait.
Voilà.
C'est une belle opportunité.
Totalement.
Merci, madame, de nous le rappeler, ce qui est important.
Si vous le permettez, moi, j'ai un petit truc pour me faire accepter les choses que je ne peux plus faire au fur et à mesure, les espèces de petits renoncements qui viennent jour après jour et qui viennent avec l'âge. Donc j'ai un petit tuyau que j'aimerais bien partager avec vous. Je me dis, lorsque je suis devant un fait inéluctable, je me dis, bon, tu as déjà fait le taf de ta vie. Maintenant, tu peux éventuellement renoncer à ça ou à ça ou à ça. Et le fait de me dire ça, ça me rassure. Parce que toute notre vie professionnelle durant, quand on a élevé nos enfants et tout, tout devait être bien fait. Je ne parle pas de perfection, mais tout devait être bien fait. On avait notre fierté pour le faire, etc. Et aujourd'hui, cette fierté, on ne l'a plus toujours, n'est-ce pas ? Donc, pour pouvoir me rassurer quant à cette fierté un peu disparue, pour certaines choses seulement, hein, je précise bien que pour certaines choses physiques notamment, eh bien, je me dis, tu as déjà fait le taf. Voilà, c'est court dans ma tête, mais ça marche. Et puis, une autre chose aussi me permet d'avancer en âge, parce que moi, je refuse pas du tout l'âge. C'est la gratitude. Et pour avoir personnellement rencontré Axel Kahn, c'était aussi quelqu'un qui était dans la gratitude et dans la bienveillance, mais surtout dans la gratitude. Et quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que la vie m'a quand même déjà donné, permis de faire, tout le monde n'a pas forcément la capacité physique ou mentale de faire des tas de choses, ce que la grâce m'a été donnée, je suis très très pleine de gratitude pour ça. Et ça aussi, c'est un truc qui aide.
Cette capacité de dire merci. Oui, je crois que c'est un...
Merci à la vie.
Je crois que c'est une belle conclusion, Virginie. Vous souhaitez conclure ? Non ? Je crois que dire... Tout le monde n'a pas cette chance de vivre encore à l'âge que nous avons, c'est vrai. Être relativement en forme, cette capacité de dire merci. Et je crois que ce merci-là, on peut le dire aux fleurs que nous croisons, comme Axel Kahn, à un sourire de quelqu'un d'inconnu dans la rue, à un bon repas que nous partageons, à un bel endroit comme celui qui nous a été offert aujourd'hui. Profondément merci, parce que c'est un beau respect pour ce que nous sommes, pour les personnes que nous sommes ici aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à dire merci, parce que dire un autre façon de dire merci, pas un merci, c'est sympa, mais merci. Merci, c'est aussi je t'aime, et je m'aime, et j'aime la vie qui est la mienne, même si elle n'est pas parfaite. Vous l'avez très bien traduit, madame, même si j'ai des souffrances physiques et que j'ai mes deux cannes et que dans la rue, mais quand j'ai dit bonjour pendant le confinement à des personnes que je ne connaissais pas, et qu'elles m'ont rendu le sourire, c'est pas merveilleux ? C'est un vrai merci. L'enfant que l'on croise dans la rue qui nous fait bonjour. Vous savez, parfois, il y a des petits gamins au-dessus des ponts. Je crois que c'est ça aussi, bien vieillir. C'est garder cette capacité de dire merci. Tu veux ajouter quelque chose ?
On parlait d'un petit garçon tout à l'heure. On s'est fait la réflexion dans les clous.
Quand on les... Oui, quand on les laisse passer, les petits jeunes qui disent merci. Voilà. Tout à fait. Autre chose que vous avez envie de partager ?
Il faut oser, mais il faut doser.
Oser et doser, effectivement.
Je vais
Bien, donc je vous propose qu'on poursuive cet échange-là autour d'un petit café ou d'une petite bouteille d'eau avec des petits gâteaux. En tout cas, moi, je vous dis merci. N'oubliez pas les évals.